Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle. Le 10 septembre 2024 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis, voilà, il est 12h02 exactement, on est ravis d'être avec vous. Et voilà, nous allons conclure cette 11e édition, édition 2024 du speed dating d'Arkéa Banque, qui, je le rappelle, est l'événement qui finalement augure de la rentrée économique après la rencontre des entreprises de France au MEDEF. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir, pour clôturer cette 11e édition du speed dating, Julien Carmona, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes le président du Crédit Mutuel Arkéa. Merci de prendre le temps de venir faire justement la clôture de ce speed dating ici à la radio. Première question, Julien, comment vous avez senti cette première matinée ?
Alors, une matinée intéressante, des tables rondes de grande qualité. Je retiens notamment tous les débats sur les solutions innovantes des entreprises pour loger des salariés. Dans un sens, c'est un voyage dans le temps. Vous vous souvenez, on parlait du paternalisme, des corons et de tout ce qui avait été fait. On peut aussi revenir à l'immédiate après-guerre avec le 1% logement. Et ben aujourd'hui, à nouveau, le besoin étant très fort, on a beaucoup d'entreprises qui s'impliquent pour créer des foncières d'entreprises ou des nouveaux montages parce qu'il y a un lien qui est extraordinairement fort entre le logement, l'emploi, la mobilité. Et c'était bien de voir un certain nombre d'entreprises qui sont véritablement engagées là-dessus.
Alors justement, on en parle justement de plus en plus. On le voit, hein, les chiffres du logement sont pas bons du tout, notamment de la construction de logements neufs, avec des baisses extrêmement fortes. Mais je voudrais revenir sur l'ADN justement du Crédit Mutuel Arkéa. Vous êtes une banque très ancrée dans les territoires et historiquement implantée sur la côte ouest de l'Hexagone. Je prends l'exemple de la Bretagne, qui est un territoire de plus en plus prisé, à l'instar des Landes aussi très très prisé également. Quelles problématiques et quelles solutions vous identifiez justement en matière de logement ?
Merci. Alors effectivement, en Bretagne, on a à la fois la même problématique que tout le monde au niveau national, mais de façon plus singulière, celle d'un territoire en très forte croissance démographique et avec des perspectives de croissance très importantes. La Bretagne aujourd'hui, c'est 3,5 millions d'habitants et à horizon de 30 ans, c'est 4 millions d'habitants au minimum. 500 000 nouveaux habitants, quasiment l'équivalent de la population d'un département breton, celui des Côtes d'Armor, et avec une construction de logements qui a été dynamique jusqu'à 2021-2022, qui est aujourd'hui en très forte baisse. Et donc la question, c'est comment on va accueillir tout ce monde-là, sachant que c'est notre intérêt collectif en tant que Breton d'accueillir à la fois des salariés, puisqu'on a une économie locale particulièrement dynamique, un taux de chômage de 6%, quasiment ouais. Le plein emploi hein, d'après les standards français. On a également beaucoup de seniors, on a beaucoup d'étudiants, et donc un défi collectif où on était dans une dynamique, et depuis 2022, on est sur, je dirais, une pause ou une rupture dans cette tendance. Et donc le sujet, c'est comment relancer la tendance.
Cette tendance, elle se relancera pourquoi ? Parce qu'on a un problème de foncier ? Est-ce qu'on a un problème de cherté, justement de ce niveau-là ? Ou est-ce que c'est aussi la combinaison des trois phénomènes ? Foncier, décision locale, élus et dispositifs peut-être d'État, fiscaux, qui permettraient de booster, de doper ou d'encourager la construction ?
Alors le foncier est cher là où il est rare, et particulièrement dans les zones littorales qui sont les plus prisés. Là, on peut véritablement parler de fracture territoriale entre un littoral breton extraordinairement désirable, mais qui est devenu cher. Et de ce fait, les jeunes actifs ont beaucoup de mal à s'y loger. Or, on a besoin d'eux pour leur travail dans l'hôtellerie, restauration, dans les usines, dans les services et ainsi de suite.
C'est un vrai sujet. Hein.
Un vrai sujet qui donc amène un certain nombre d'entreprises à prendre les devants. Ensuite, on a effectivement la non-artificialisation des sols. Personnellement, et animé d'une vraie conviction écologique, je pense que cette loi, Lausanne, est vraiment, je dirais, animée d'une très bonne intention. Maintenant, le problème est qu'avant même la date d'application, eh bien, un certain nombre de décideurs publics ont anticipé et ont commencé à rationner le foncier. Là, il y a un certain nombre de freins à desserrer. Et puis en Bretagne, eh bien, ça a été vraiment la région par excellence de la maison individuelle. Voilà, ça correspond à la fois au rêve, à l'aspiration de beaucoup de gens. Et puis,
87% des Français plébiscitent la maison individuelle.
Exactement. Et donc, c'est là où on s'est pris vraiment le mouvement de haro sur la maison individuelle, qui est tout à fait excessif, à mon avis, et auquel il faut répondre à la fois par des réalités et pas par des idéologies, et aussi en continuant à faire des maisons individuelles, mais sur des terrains plus petits. Sans dire, il y a forcément 1000 mètres carrés de terrain. On peut avoir des moins de jardins ou des maisons en bande. C'est l'occasion de réinventer, de densifier intelligemment le territoire.
De la mitoyenneté, de la copropriété de sol. Effectivement, toutes ces... Et on a su faire ça, finalement, à une époque.
Exactement.
Parce que si on prend l'exemple des corons, vous savez, on prenait l'exemple des corons, c'est de la mitoyenneté avec des petits jardins. Il y avait même des jardins, vous vous rappelez, des jardins ouvriers ou des jardins potagers. Quelque part, il y a presque une ironie du sort dans la volonté de revenir à certains modes qui étaient beaucoup plus réfléchi, justement.
Vous avez raison. Pardon. Et pardon, je rebondis un moment sur la Bretagne. On a quand même des atouts. Donc le premier atout, on a des maires bâtisseurs. Et contrairement à l'adage, qui ne sont pas des maires battus, mais au contraire sont réélus dans
clair.
La durée.
C'est clair.
Donc si on a autant construit, c'est parce qu'on a des élus qui ont vraiment la vision du long terme et de l'intérêt collectif. Donc conclusion, c'est possible. Deuxième constat, c'est une région où on arrive à travailler collectivement. Entre élus, aménageurs, promoteurs, on a des promoteurs bretons de très grande qualité, et l'ensemble des acteurs économiques. Et quand on s'y met ensemble et sans s'envoyer des invectives les uns aux autres, eh ben ça peut permettre de faire avancer les choses, y compris avec les services de l'État. Et puis troisième chose, c'est une région où on aime expérimenter, innover. Donc le Pinel breton a été une expérimentation très réussie.
Qui a très bien marché.
Exactement. Le bail réel solidaire, c'est vraiment à Rennes qu'il a pris son essor et ça très continue à se développer. Et je pense que c'est aussi par l'innovation, sur des nouvelles formes de financement, pour en parler, des nouvelles formes de structuration pour le logement des salariés, qu'on va pouvoir justement retrouver les voies d'une dynamique dans la construction et la rénovation de logements.
Carré, vous avez la chance avec Nathalie Appéré d'avoir une mère qui a une vraie connaissance technique, une vraie compétence dans ces dossiers. Vous avez dit une chose tout à l'heure qui est très juste, c'est qu'effectivement il faut s'éloigner d'une certaine forme de dogmatisme ou d'idéologie pour être véritablement dans l'usage et dans le besoin des Français. Justement, il y a quelques mois, vous avez lancé la coalition Territoire et Transition. C'est un collectif, d'accord, qui se veut à la fois think tank, do tank, aussi également, puisque vous ne faites pas uniquement qu'énoncer des problématiques. Vous proposez très concrètement, Julien Carmona, des schémas de solutions qui sont même assez poussés, puisque vous les chiffrez, vous avez des orientations. Vous avez des personnes connues et reconnues, des personnalités classées, puisque vous avez même une ancienne ministre du Logement dans votre collectif. Elle est présidente actuellement de l'Union sociale pour l'habitat, c'est Emmanuel Cosse. Est-ce que vous pourriez nous faire part, Julien, de vos premières observations et quelles seraient les grandes recommandations qui vont pouvoir être dégagées dans l'espoir peut-être de faire suffisamment de lobbying ou d'influence pour qu'elle soit prise en compte aujourd'hui par les politiques.
Merci. Alors cette coalition Territoire et Transition, son originalité, c'est qu'elle est composée pour l'essentiel d'hommes et de femmes qui vivent dans les régions, dans les territoires. Ça n'est pas de
ça, c'est un parti pris hein, que vous avez.
Absolument. Ouais. Ça n'est pas de l'anti-parisianisme primaire qui serait ridicule, mais c'est de faire entendre une autre voix que celle des think tanks que chacun connaît et qui pensent plutôt de haut en bas. C'est d'avoir plutôt une réflexion de bas en haut. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on associe des chefs d'entreprise, entreprises privées, entreprises publiques, des élus, notamment locaux, des chercheurs et un certain nombre d'acteurs qui veulent faire avancer les choses. On est transpartisans ou apolitiques et on est tous animés d'une conviction écologique, sociale qui est réelle et qui doit se marier avec une réalité économique et une ambition de croissance et non pas de décroissance. Une fois qu'on a dit ça, donc le premier sujet dont on s'est saisi, c'est effectivement le logement. C'est une évidence. Voilà, j'ai pas besoin, surtout sur Radio Immo, de rappeler pourquoi. Et notamment, effectivement, pour des chefs d'entreprise soucieux du développement de leurs entreprises, du logement de leurs salariés, plus généralement de la vitalité de leur territoire. Ce que nous avons voulu faire, c'est deux choses. Un, c'est de mettre en exergue, de mettre en évidence des expériences locales réussies. Et il y en a beaucoup. Sur l'ensemble de la France, il y a des gens qui peuvent être du privé, du public, qui agissent, qui font bouger les lignes dans le cadre de la réglementation actuelle. Et je trouve que déjà faire connaître et diffuser ces expériences On a parlé, par exemple, voilà, d'une solution, d'une entreprise du Pays Basque pour gérer ses salariés, c'est Agour. Ça mérite vraiment d'être connu et de peut-être d'avoir une espèce de viralité dans la diffusion des bonnes pratiques. Ensuite, je ne sais pas si c'est de la modestie ou du réalisme, on n'est pas dans des propositions de réforme qui seraient une espèce de grand soir. Grand soir fiscal, grand soir du droit de l'urbanisme, grand soir de la fin du millefeuille territorial. On considère qu'il y a des choses qui, à court terme, ne vont pas être changées, y compris, même si on peut le regretter, les problématiques de finances publiques et de fiscalité en matière de logement. En revanche, il y a effectivement un certain nombre de verrous réglementaires, et on en identifie certains, qu'on peut faire bouger, des réformes peu coûteuses pour les finances publiques qu'on peut proposer, et c'est cela qu'il y a dans notre première.
Si vous deviez en citer une orientation précise pour qu'on illustre le propos.
Alors, du côté du financement, il y a une réforme qui ne coûte pas un euro et qui consisterait à s'interroger, voire à suspendre, les normes du fameux HCSF, au Conseil du secteur financier.
Là, vous avez les applaudissements de ceux qui vous écoutent.
Hein. Oui, mais il n'y a nulle polémique vis-à-vis de la Banque de France Nul, voilà, souhait d'avoir des applaudissements, mais vraiment...
Mais c'est la voie du bon sens, Julien.
En tout cas, je pense que ces normes, donc qui, comme chacun sait, voilà, restreignent à la fois la durée des crédits et les capacités de financement à travers cette notion de taux d'effort, elles ont pesé durement sur les primo-accédants, on le sait tous, mais aussi sur les investisseurs locatifs, qui sont aujourd'hui assez largement exclus du marché du financement de ce fait-là, alors même qu'ils et elles sont parfaitement solvables. Ce qu'on peut dire, c'est que quand la Banque de France a poussé cette notion de contrainte supplémentaire, c'était en 2019-2020, ça pouvait se comprendre. On était dans un marché qui pouvait peut-être être considéré comme en surchauffe, le risque d'une bulle, etc. Mais aujourd'hui, en 2024, on n'est pas dans la surchauffe. On est même dans la glaciation.
Ah, c'est clair.
Et donc, ne serait-ce qu'à titre temporaire et expérimental de suspendre ces normes contraignantes, est une idée qui pourrait être considérée. Ensuite, sur le financement, on ne peut pas tout attendre des autres. Et donc, chez Crédit Mutuel Arkéa, nous avons lancé une innovation qui peut être, si d'autres banques le souhaitent, je dirais reprise par elle, et qui est destinée aux primo-accédants. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, pour les dossiers qui ne passent pas, parce que la mensualité est trop élevée ou parce que l'apport personnel n'est pas là,
bien sûr,
de dire nous-mêmes, nous créons une foncière liée à notre banque et nous investissons 10% du coût total du projet en fonds propres. Donc en quelque sorte, nous co-investissons aux côtés de l'emprunteur. On appelle cette solution duo primo, mais voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est de dire, pour des primo-accédants qui sont parfaitement solvables, mais n'ont pas l'apport personnel, nous sommes prêts à leur apporter ces fonds propres pendant 10 ans. À l'échéance des 10 ans, l'immense majorité sera en capacité de racheter la part de la banque, augmentée d'une légère rémunération, ou bien parce que l'emprunteur aura vu ses revenus augmenter ou reçu une donation ou ce genre de choses, et aussi parce que c'est la magie du crédit habitat à la française avec amortissement progressif, le crédit à rembourser sera moins élevé. Donc on lance ça sur nos territoires historiques, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, et on espère, on ne connaît pas encore la taille et la profondeur du marché, mais pouvoir donner un petit peu d'espoir à des jeunes ménages actifs qui ont aujourd'hui du mal à acheter leur premier logement.
Ça s'appelle Duo Primo.
Duo Primo. Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
Ça veut dire que... Alors, bien évidemment, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous êtes en train de me dire, Julien, que vous êtes en train de resolvabiliser pratiquement plus de 30% des primo-accédants qui ont été exclus de l'accès à la propriété dans les deux dernières années.
Alors,
vous vous rendez compte, c'est considérable.
C'est l'objectif, je ne fais aucune prévision quantitative.
Non mais je veux dire ce que le chiffre que vous me donnez par rapport à l'illustration des cas que nous avons traités sur l'ensemble, c'est considérable. Comment se fait-il que vous ayez, vous, eu cette innovation? Pourquoi les banques ne l'ont pas mis en place?
Je pense
que demain matin, ça veut dire que vous êtes en indivision avec,
avec
tous les Français.
C'est une indivision avec nos clients. Et une indivision où la banque est ce qu'on appelle un partenaire dormant. Hein.
Il s'agit
des choses qui ne sont pas possibles, mais pour le reste,
oui,
c'est vraiment le client, la cliente.
Finalement, je m'installe chez vous, je rachète le reste de la division.
Exactement. ça n'est pas le but. Donc je ne fais pas de prévision quantitative, on verra. Mais en tout cas, c'est une contribution. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a des banques qui font des crédits à taux concessionnel.
Oui. Alors il y a quelques start-up comme celle de Xavier Lépine qui s'appelle Neoproprio, qui a lancé.
Dont le modèle est très intéressant.
Vous avez aussi d'autres modèles qui ressemblent un petit peu à cela, notamment notamment, je pensais, très ingénieuse qu'a lancé Xavier Lépine, extrêmement ingénieuse, en plus, quelqu'un qui connaît bien le secteur, absolument, puisqu'il a été président de la Française, mais également, par exemple, Monetivia, qui est une autre forme,
oui,
une autre forme de on voit bien que le démembrement, d'ailleurs, de la propriété, ou le principe de la propriété indivise, devient finalement des alternatives, des outils. Les premières expérimentations de Duo Primo ont déjà eu lieu.
Oui, en juin dernier, notamment.
Et est-ce que les résultats vous donnent...
On a eu suffisamment d'intérêt des clients pour nous convaincre de généraliser ce que nous faisons à la fin du mois de septembre dans l'ensemble de nos réseaux.
Et il serait souhaitable que toutes les banques du secteur... On vous emboîte le pas, finalement.
Bon, on trouve leur propre solution.
Ou trouve leur propre, leur propre solution. C'est extrêmement... Donc, du coup, votre coalition que vous avez créée, c'est extrêmement concret, tout ce que vous nous dites.
C'est concret. Et au-delà, alors, il y a quelque chose qui est très important pour nous, et quand on parle de territoire, c'est bien normal, c'est que, vraiment, plus on décentralise, mieux ça marche. Et il y a eu, là aussi, des expériences en Bretagne qui ont été réussies. Mais quand on est dans une mobilisation des acteurs et dans des formes de contrats d'engagement entre l'État, qui peut donner des grands objectifs et la stratégie, mais les collectivités locales qui font, on a la conviction que ça marche beaucoup mieux. Et dans les propositions, il y en aurait plusieurs. Donc l'une serait vraiment de décentraliser les aides au logement et les aides à la rénovation, les aides MaPrimeRénov'. Mmh. Franchement, si on regarde au regard des besoins locaux, eh ben, on a beaucoup plus de chances d'être concret et d'avoir une utilité.
Et quand vous dites délocaliser, qui serait l'arbitrage local?
Je pense que ça peut être un collectif. Il peut y avoir les régions qui regardent ces schémas. Au niveau opérationnel, je pense aux EPCI, aux intercommunalités, l'essentiel.
Très bien, il y a environ 1300 EPCI en France, environ.
C'est ça.
Je crois 1250 exactement. Mais absolument, je suis tout à fait d'accord. Vous vous rendez compte que finalement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que... On a un enfoncement depuis la présidence du premier mandat d'Emmanuel Macron, un jacobinisme forcené qui centralise, vous l'avez bien vu, hein, c'est une tentation. C'était déjà une tentation depuis une vingtaine d'années, mais là on voit bien que ça s'est bien renforcé. Donc là vous inversez complètement le processus et vous proposez un autre schéma. Est-ce que vous espérez qu'avec cette coalition, vous serez entendu? Autrement dit, vous vous adressez également aux élus. Est-ce que les élus plébiscitent ce type d'action?
En tout cas, on va beaucoup les informer, les alimenter. On espère qu'au moins certaines des propositions seront reprises. Et puis que notre posture générale, qui est vraiment d'être dans du positif, de la diffusion de bonnes pratiques et des réformes réalistes et faisables, sera adoptée plutôt que d'être... on veut être ni dans la déploration, ni dans l'incantation, mais dans le faire, effectivement.
En fait, quand j'ai lu les éléments, alors bien évidemment, on peut avoir accès à toute cette information, bien évidemment, puisque vous l'avez rendue publique, il y a une vraie complexité. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous respectiez la complexité, parce que résumer, finalement, trop simplement, serait ce que j'appelle, moi, une imposture libérale. Hein. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas dénier, éluder le caractère complexe. C'est complexe, c'est complexe. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a pas d'entre-soi dans vos rapports. Il y a une vraie volonté d'intégration d'une intelligence collective à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Là, du coup, alors les élus, ils vont vous suivre, les élus locaux, bien évidemment. J'ai une toute dernière question à vous poser. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel Arkéa, dans son ADN, porte les valeurs de la coopérative.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Bertrand Blampin précédemment, en disant si on veut savoir d'où on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Et les racines, finalement, qui ont présidé à cela. Vous êtes typiquement le type de banquier, Julien, qui, de façon très délibérée, donne un parapluie à quelqu'un qui en a besoin quand il pleut. Versus le vieil adage qui dit que le banquier ne donne qu'un parapluie que quand il fait beau. Et vous le faites parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. Est-ce que cet ADN du banquier citoyen, du banquier coopératif, dans un monde comme le nôtre, trouve pleinement son sens?
Je vous remercie et pour ces compliments et pour cette question.
Et je le pense.
Merci. Ma conviction est que oui, Tout à fait, c'est-à-dire c'est un modèle qui ne date pas d'hier, il date du début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, dans un autre contexte historique où les grandes banques existantes ne prêtaient qu'aux riches et personne ne s'occupait des pauvres et même des classes moyennes. Aujourd'hui, le marché, il est rempli, la France est bien bancarisée, certains disent même surbancarisée, mais la question, c'est comment retrouver le sens de ce métier et comment répondre à des nouveaux besoins, qui peuvent être les besoins des gens qui risquent d'être mouillés, faute de parapluie, mais qui peuvent être les besoins aussi des entreprises innovantes, de la réindustrialisation ou de secteurs qui ont besoin de coups de pouce comme justement le logement. Par rapport à ça, je dirais notre modèle coopératif, qui n'est pas le seul, je trouve à retrouver une espèce de nouvelle jeunesse avec tout le mouvement de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc la loi Pacte, qui pour moi est une très bonne loi, vous avez pu mettre en cause le président de la République, mais il y a des très bonnes choses dans le bilan.
Je dis que c'est...
Sur le logement, il est difficile d'en
dire. Quand on est président de la République et qu'on met à genoux toute une industrie du logement et de la construction, on emporte une certaine responsabilité.
Absolument. Mais en tout cas, on a cette loi PAC de 2018 qui a remis au centre cette notion de responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société, volonté d'avoir une utilité, toujours dans le respect d'une performance économique, parce que si on n'a pas de performance économique et financière, le reste est littérature.
Sans prospérité.
Mais si on arrive à faire les deux, c'est intéressant et ça redonne du sens et de l'intérêt à notre métier de banquier, comme au métier de toutes les entreprises qui prennent cette voie de la raison d'être, voire de l'entreprise à mission.
Mais c'est un ratio extra-financier basé sur l'humain qui influence vos décisions, et ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue philosophique, pratique et anthropologique, a plus que du sens, puisque ça répond à aujourd'hui une génération, à ceux qui aujourd'hui sont aux affaires. Vous savez, on a inventé la green value, on a inventé la finance verte, on a inventé des sujets, et aujourd'hui on ne lève plus de fonds à l'échelle européenne, même sur les marchés financiers, si on n'a pas ces ratios RSE, ESG, qui caractérisent finalement ce basculement. Moi, j'utilise souvent un terme qui dit que ce n'est pas finalement une époque capitaliste, mais plutôt post-capitaliste, qui préside, ou le capital préside à autre chose que la destination brute qu'on lui avait connue. Je pense que c'est un bon signe de bouleversement d'une génération. Je trouve très rassurant que vous l'accompagniez de cette façon-là.
C'est vrai, il en sortira sans doute un nouveau modèle.
Certainement. Merci beaucoup, Julien Carmona. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Crédit Mutuel Arkéa. Surtout, ne changez rien. Et on suivra avec beaucoup, beaucoup de vigilance les travaux que vous allez fournir avec cette coalition. D'ailleurs, le podcast, on vous dirigera sur toutes les informations le concernant. Merci à vous.
Merci.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle. Le 10 septembre 2024 sur Radio Immo et Radio Territoria.